entité que cet élément produit, il y a un véritable enjeu spirituel. Je pense qu'il y a, il y a vraiment un enjeu spirituel dans cette situation. Pourquoi un enjeu spirituel? Parce que Satan a été vaincu à la croix. Ça, c'est fait. Il lui reste très peu de temps. Il le sait et il cherche à se venger et à nuire à Dieu. Et ses plus grandes victoires, les plus grandes victoires de Satan, sont obtenues quand il arrive à influencer des humains, vous, moi, en les poussant au mal de la vengeance. Parce que la vengeance, c'est un trait de caractère de Satan. De la même manière que l'amour est un trait de caractère de Dieu. La vengeance est un trait de caractère de Satan et l'amour est un trait de caractère de Dieu. Et aujourd'hui, notre méditation va nous donner l'occasion de choisir entre les deux. Alors, qui préfère être du côté de Satan? Levez la main. Qui préfère être du côté de Dieu? D'accord. Ça va, alors, je suis rassuré. Juste un petit rappel sur là où on en est, parce que c'est important, le texte d'aujourd'hui, il s'insère dans un contexte du sermon sur la montagne, et je vais prendre quand même 5 minutes pour revenir là-dessus. Le sermon sur la montagne met l'accent sur la différence entre l'attitude intérieure qu'on peut avoir et le comportement extérieur qui en résulte. Si nous sommes cohérents, des hommes en Christ ou des femmes en Christ, notre attitude intérieure, nos pensées, va refléter notre attitude extérieure. Ou bien on peut être hypocrite, comme les pharisiens que Jésus dénonçait. Ils avaient une attitude intérieure pourrie et extérieurement, ils paraissaient beaux. C'est l'image du plat qui était beau à l'extérieur et pourri, sale à l'intérieur. Et donc, c'est important de comprendre ce qui se passe au dedans de nous dans ces circonstances. Colin nous a parlé des pensées la semaine dernière. Je vous invite à revenir à ce message parce que c'est important de voir ce qui se passe dedans. Et puis, peut-être qu'on y reviendra encore plus tard parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour notre vie chrétienne. Alors, où est-ce qu'on en est du sermon sur la montagne? Eh bien, attendez, je devrais avoir une diapo. Avant de faire ça, on va peut-être juste lire le texte qui nous intéresse, puis après on y reviendra. Alors, je vous invite à lire donc Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Je vous les ai affichés. Matthieu 5, 38 à 48. Vous avez appris qu'il... Donc c'est la version second 21. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin d'être le fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, c'est facile, hein? C'est vite lu. Tranquille. Tranquille. Alors, le sermon sur la montagne. Encore une fois, comprendre... Pourquoi j'avance pas dans le bon sens? Voilà. Comprendre, donc, ce premier élément que je vous ai dit. On a vu, donc, dans le sermon sur la montagne, les béatitudes. Les béatitudes, ce sont 8 étapes d'ascension spirituelle. Je n'y reviens pas. Revenez sur les messages avec Philippe. On en a traité 4 chacun. Le sermon sur la montagne, ensuite, se poursuit par... l'appel à la responsabilité du disciple. Vous êtes sel et lumière. Il y a une notion de responsabilité personnelle qui change par rapport à l'Ancien Testament où c'était collectif. Vous voyez il y a quelques petits passages dans Ézéchiel où il y a appel à la responsabilité personnelle, mais là, Jésus revient là-dessus, c'est « vous êtes le sel et la lumière de la terre ». Et puis, ce verset clé dont je vous avais parlé, « si votre justice... ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc il y a cette notion de pharisianisme qui est constant dans la Bible. Jésus passe plus de temps à dénoncer l'attitude incorrecte des pharisiens et son attitude néfaste pour le peuple que guérir des malades et appeler à la repentance. Si on regarde bien le Nouveau Testament, il y a énormément de dénonciations, de religiosité, de pharisianisme. Et le sermon sur la montagne est centré là-dessus. Si notre attitude ne va pas au-delà de celle des pharisiens, c'est-à-dire quelque chose de limité, quelque chose d'hypocrite, eh bien, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, on n'est pas un disciple de Jésus. Et là, Jésus va aborder le côté pratique de cet enseignement. C'est-à-dire, il va aborder la notion de « vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, oui Françoise, dis-moi, mais moi, je vous dis. » Et il va dénoncer ainsi, 6 plus 1, on verra pourquoi, exemple d'attitude coupable, d'attitude dans laquelle on pêche. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est important à comprendre la différence entre les deux. On y reviendra tout à l'heure. Le « vous avez appris qu'il a été dit », par exemple Jésus quand il a été tenté au désert, qu'est-ce qu'il a dit pour résister à la tentation ? Il est écrit, d'accord ? Quelle est la différence entre « il est écrit » et « vous avez appris qu'il a été dit » ? Il est écrit, c'est l'écriture. C'est ce qui est dans la Bible. Sola Scriptura. On célèbre les 400 ans du protestantisme, les 5 solas des écritures, enfin les 5 solas du protestantisme, hein, seul, l'écriture seule. Il est écrit. Quand Jésus dit « vous avez appris qu'il a été dit », ça veut dire, en gros, il dénonce ce que la tradition, ce que les pharisiens ont détourné. Vous comprenez ça ? Et 6 fois plus 1, on en a vu 5 déjà, on va voir les 2 dernières aujourd'hui, 5 fois plus 1, il va dénoncer ça. Il faut bien comprendre là où on est. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas « il est écrit et vous avez mis en pratique, mais moi maintenant je vous dis ». C'est-à-dire que Jésus ne change pas les choses. Jésus dénonce que vous avez appris et vous avez peut-être mal appris. C'est-à-dire qu'il nous interpelle, il interpelle les auditeurs en disant « attention ». Peut-être que ce que vous avez appris, peut-être que ce que vous avez pratiqué dans votre église depuis tout petit, peut-être que ce n'est pas l'écriture. Donc c'est vraiment un appel à la remise en question. Et là, le « vous avez appris » va concerner donc, on a vu ces points. D'accord ? Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Je résume très vite. Premièrement, la colère. D'accord ? Il va parler via le meurtre. Hein, il dit, si tu te mets en colère sans raison, et si tu pêches quand tu te mets en colère, eh bien, c'est pas bon. D'accord ? Et il va parler en même temps, si tu présentes à Dieu ton offrande, et là, tu es en colère contre quelqu'un, ou quelqu'un est en colère contre toi, va te réconcilier. Ensuite, le deuxième point. J'ai vraiment des problèmes, là. Le deuxième point, c'est les mauvais désirs. Via l'adultère. C'est-à-dire, ok, tu n'as peut-être pas fait d'adultère, mais si ton œil et ta main ne sont pas clean, s'ils ne sont pas purs, eh bien, c'est comme si tu faisais un adultère. Tu as des mauvais désirs. Le troisième point, c'est la domination via le divorce. C'est-à-dire que si tu abuses, et là il s'adresse aux hommes, si tu abuses des hommes, si tu abuses de ta position dominante et si tu ne connais pas l'intention première du Créateur sur le mariage, tu es à côté de tes pompes. Et donc, il encourage au respect des engagements du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, à chaque fois, ce sont des attitudes coupables par des abus d'interprétation. Et puis, on va arriver au serment. C'est le manquement à la vérité. C'est-à-dire, si tu n'es pas vrai, si tu fais des vœux, si tu t'engages et que tu ne tiens pas ta parole, tu n'es pas vrai. C'est la notion de parole pure et inaltérable. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas de langue de bois, pas d'hypocrisie. c'est la parole donnée, c'est vraiment la notion de respect de la vérité. Donc, ces quatre éléments qui sont la colère, les mauvais désirs, la domination et le manquement à la vérité, ce sont des attitudes qui ont été apprises et qui ont besoin d'être revisitées. Et ce matin, on va en revisiter deux, qui sont donc l'attitude face à la vengeance, qui comprend en fait deux volets. Il y a un premier volet, c'est le ressentiment. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, le préliminaire à la vengeance? Et ensuite, est-ce qu'il faut haïr ou pas son prochain? Et son corollaire, bien sûr, c'est l'amour des ennemis. Alors, ce passage sur la vengeance, c'est vraiment le seul passage de tout cela, de tout le sermon sur la montagne concernant ces six attitudes, qui sont repris ailleurs. Tout le reste, c'est spécifique à Matthieu. Mais Luc va reprendre, en Luc chapitre 6, verset 27, il va reprendre ce chapitre sur la vengeance. D'accord ? C'est le seul qui est repris. Tous les autres sont exclusifs à Matthieu. Donc, s'il reprend ce chapitre, si ce chapitre est le dernier, c'est que c'est vraiment un point qui est important. Il y a un peu l'adultère. Luc va parler un petit peu de l'adultère, mais très peu. Hein, et la vengeance, c'est quasiment ce point exclusif. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Eh bien, j'ai essayé de le simplifier ou de le synthétiser. Il y a deux impératifs et un problème au milieu. Alors, les deux impératifs, lesquels? Premièrement, ne pas résister. Il y a tout un chapitre sur ne pas résister aux méchants. Et il y a un deuxième chapitre, c'est « Aimez vos ennemis, faites du bien, priez, etc. » Et un problème au milieu, et un problème de taille, c'est « Comment je fais ?» Parce que quand je regarde ça, je ne sais pas faire. Je suis impuissant, je ne sais pas faire. Donc, voilà, la question est posée. On va voir maintenant que nous dit le texte. Alors, ne pas résister aux méchants. Je reviens à ces deux impératifs, et le premier des impératifs. Zut. Aujourd'hui, j'ai vraiment un problème. Voilà. Ne pas résister aux méchants. Alors, ne pas résister aux méchants, c'est par exemple ce qu'a fait Gandhi. Vous connaissez l'histoire de Gandhi? Il a fait tomber l'Empire britannique par la non-violence. C'est-à-dire que le premier verset qu'on a lu, si quelqu'un te gifle sous la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Il a exactement fait ça, littéralement. Ça a quand même fait tomber un empire britannique. Mais je pense que le standard de Dieu n'est pas là. Peut-être que Gandhi s'est inspiré de l'évangile. Vous savez que Gandhi a dit au sujet des chrétiens, la seule chose qui m'empêche de devenir chrétien, c'est les chrétiens eux-mêmes. C'est Gandhi qui l'a dit, hein. Alors, je fais pas un truc à la gloire de Gandhi, mais Gandhi probablement connaissait ce texte et probablement a dû mettre littéralement en place ce gifler sur la joue droite, etc. Alors, on va voir comment il faut comprendre ce texte. Je pense que le passage que Jésus est en train de traiter est un principe qui s'applique à nos relations dans la vie courante. Ça ne s'applique pas, par exemple, à quelqu'un qui est violent en face de nous, ou un ravisseur qui va menacer notre enfant, ou qui va menacer un parent, ou un ennemi sur le champ de bataille. Vraiment, ce passage, il s'applique à des relations du quotidien. Ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Et le but de Jésus, c'est de substituer à la vengeance personnelle le principe de la réconciliation. C'est-à-dire que ce qui compte pour bien comprendre ce texte, c'est dans quel esprit on va l'aborder. Si on l'aborde avec un esprit de réconciliation, c'est différent de l'aborder avec un esprit fanatique de vouloir tuer, comme les chrétiens de Daesh, les gens de Daesh, excusez-moi. Alors là, c'est pas enregistré, si c'est enregistré, mais voilà, je l'ai corrigé, hein. Donc, dans le contexte, ce que Jésus veut dire, c'est qu'il ne faut pas chercher soi-même à ce que justice soit faite. C'est ça le message. Par exemple, tout à l'heure, Philippe a parlé de David. David, quand il s'est retrouvé dans la caverne, il aurait eu l'occasion de se faire justice lui-même. D'accord? Il aurait pu tuer Saül. Et il a décidé de ne pas se venger en disant « c'est l'Éternel qui va me venger ». Ben, c'est ça l'esprit que Jésus est en train de souligner ici. C'est-à-dire, il faut ne pas chercher à ce que justice soit faite soi-même, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus rester prisonnier d'une injustice. Donc, il ne faut pas être dans la passivité, il ne faut pas être dans la lâcheté. Vous comprenez ça? Et l'apôtre Paul nous dira, il faut ne pas être happé par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Mais ça ne veut pas dire tolérer le mal, ça ne veut pas dire être passif, ça ne veut pas dire être lâche. Vous voyez, par exemple, Proverbe 24:19 va nous dire, « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal, et la lampe des méchants s'éteindra. » C'est dans les Proverbes, et c'est ce que David probablement a mis en place, c'est ce que nous, on doit penser, c'est ce à quoi on doit penser dans cette situation. C'est qu'il n'y a pas d'avenir pour le méchant. Alors, cette histoire de la gifle, subir un affront, d'accord? Donc, on est giflé, c'est un affront. On est du domaine de l'affront, c'est-à-dire notre honneur, notre souffrance physique, et notre honneur est bafoué et on souffre physiquement. Alors, la Bible nous dit, tant l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que je me fais marcher dessus, eh ben, il faut que je continue à faire marcher dessus, que je souris, et je lui dis, vas-y mon gars, continue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vous souvenez que Jésus a été giflé?
Oui.
Vous en souvenez? Pendant son procès.
Oui.
Jean 18. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus?
Pourquoi
me gifles-tu? Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Et si j'ai pas fait de mal, pourquoi me gifles-tu? Est-ce que Jésus a tendu l'autre joue? D'accord? Donc, Jésus lui-même l'a pas fait. Est-ce que Jésus se contredit? Non. Ça veut dire que ce texte-là, il a une autre signification. Lui tendre l'autre joue, c'est pas réellement lui tendre l'autre joue, c'est de savoir répondre peut-être de manière désarmante pour interpeller la personne. C'est ce qu'a fait Jésus. Parce que si je ne riposte pas à l'affront, eh bien, je risque d'être dévalorisé, mais si ma valeur est en Christ, c'est-à-dire que si ma dignité vient de Dieu et non pas de celui qui me donne la gifle, je reste quand même digne parce que c'est Dieu qui me donne ma dignité. Si je dépends de l'avis des autres, vous comprenez? Si je dépends de l'avis des autres, si le fait de recevoir une gifle, je me dis je perds ma dignité parce que l'autre m'a giflé, ça veut dire que je donne trop d'importance à la gifle de l'autre. Donc, si je réagis, c'est pas bon. Si je lui remets mon coup de poing dans la figure, c'est pas bon. Si je tends l'autre joue, c'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Si je présente l'autre joue, par exemple, ben, ça pourrait entraîner presque un redoublement de fureur. Parce que l'autre, il va s'énerver encore plus. Ah ben tiens, la bonne pomme, c'est facile. Clac, clac, je lui en colle une autre. Mais non, c'est pas ça. En ne ripostant pas à l'affront, je peux montrer que ma valeur et ma dignité viennent de Dieu. Par contre, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas écraser, et je dis les choses comme Jésus. Mais pourquoi tu me gifles? Je ne comprends pas. Si j'ai dit quelque chose de mal, d'abord dis-moi ce que j'ai dit de mal, et après, si vraiment j'ai dit quelque chose de mal, on s'arrange. Vous voyez? Donc, il y a une manière aussi de désarmer l'autre, pour même lui faire honte, pour l'interpeller. Et presque même, si Dieu nous en donne le courage, lui faire du bien, parce que c'est ce qui est demandé. Parce qu'en lui faisant du bien, l'apôtre Paul nous dit, et les proverbes nous disent, qu'on abase des charbons ardents sur sa tête. Puisque quand l'autre nous gifle, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir notre réaction d'énervement, d'abaissement, etc. Parce que c'est là que l'autre va jubiler. Si je ne fais rien et que j'ai un comportement complètement inverse, je vais désarçonner mon adversaire. Peut-être qu'un jour, je l'amènerai à la repentance, etc. Voilà, je crois, le sens, la gifle, c'est la notion d'affront au sens large. C'est ni s'abaisser comme une carpette, ni se venger, ni ruminer quelque chose, mais avoir une attitude, ce que les psychologues appellent une attitude assertive. D'accord? Je n'ai pas le temps de développer ça. Donc le premier élément, c'est la gifle, c'est un affront. Le deuxième élément, c'est de l'ordre du procès. Le procès, c'est quoi? C'est des relations sociales qui sont arbitrées par un pouvoir judiciaire. Donc, si quelqu'un te prend ta chemise, et donne-lui aussi ton manteau, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, la chemise, déjà, dans le texte grec original, en fait, c'est un vêtement intérieur. Faut imaginer un maillot de corps, d'accord? Donc, si quelqu'un te prend ton maillot de corps, donne-lui aussi ton manteau. Le manteau, c'est le vêtement extérieur, qui est en général plus coûteux. C'est celui que l'Ancien Testament disait qu'on n'avait pas le droit d'exiger. Hein. Je n'aurai pas le temps de voir les textes, mais croyez-moi, il y a un texte dans l'Ancien Testament qui dit que vous n'avez pas le droit d'exiger c'est Exode 22-25, hein, pour ceux qui notent. Mais voilà. Donc en gros, c'est si quelqu'un veut te prendre ton maillot de corps, donne-lui ton vison, hein, pour une femme. Ok ? Donc il faut comprendre ça comme ça. Donc c'est un procès, tout type de procès, qui sont arbitrés par un pouvoir judiciaire. D'accord ? Donc à la limite, c'est un encouragement pour nous à pas rentrer dans un procès pour une broutille. C'est-à-dire que un maillot de corps, c'est quoi ? Si quelqu'un veut prendre son maillot de corps, bon ben voilà quoi. Ne pas rentrer dans des procès, hein, c'est la signification de ce deuxième élément. Le troisième élément, c'est quelqu'un qui te force à faire quelque chose. Alors, l'interprétation de tout ça, c'est la marche forcée, c'est la relation au pouvoir. C'est-à-dire, à l'époque, les légionnaires, par exemple, pouvaient réquisitionner quelqu'un pour l'aider à porter un package. Si le légionnaire était fatigué, il pouvait réquisitionner quelqu'un, lui dire « tu portes sur un kilomètre avec moi ». Et au bout d'un kilomètre, le contrat est terminé. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici ? C'est que là, bah, tu peux même faire plus. Tu peux faire plus pour rendre témoignage. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai actuellement un contrat avec la société Merial où j'accompagne des cadres dirigeants dans le développement de leur leadership, etc. Et dans le contrat, il est stipulé que je passe 2 heures avec les gens. Moi, je prends systématiquement 3 heures. Et je leur dis, vous me bloquez 3 heures de temps et ça prend 2h30, 2h45 parce qu'en 2 heures, je n'arrive pas. Je m'intéresse à la personne, je lui pose des questions, ça me prend plus de temps. Et je leur ai dit, voilà, moi je ne peux pas faire en 2 heures, le contrat a été conclu comme ça, ça a été négocié, il y avait un prix, c'est pas moi qui l'ai négocié, c'est mon partenaire américain là qui a fait ça à l'échelle mondiale. Donc voilà, et je passe un peu plus. Hein. Donc la relation à l'autorité, c'est de montrer qu'on est capable, dans son entreprise avec son patron, de faire un peu plus que ce qui est prévu dans le contrat. D'accord ? La marche forcée, c'est ça la signification. Et enfin, la dernière, c'est celui qui veut t'emprunter. Alors, ça a trait à la solidarité. Alors ça, c'est très juste. Qu'est-ce que je fais quand je suis au feu et que j'ai quelqu'un avec un panneau syrien, etc. Hein ? Voilà, la solidarité. Je fais quoi, là ? Eh bien, voilà, on a aussi ce cas qui est mentionné. Alors ici, on a un style poétique hébraïque. Hein, en fait, le mot « demande » et « emprunt », c'est deux éléments qui veulent dire la même chose. Hein. Emprunter et demander, c'est à peu près équivalent. C'est quelque chose qu'on va emprunter pour finalement rendre. Et ça nous parle du principe de générosité. Mais générosité, pas dans n'importe quelle situation. Parce que Galates 6.10 nous dit « Ainsi donc, mes frères, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. » Donc notre rôle, c'est d'être généreux avant tout envers les frères en la foi, c'est ce que la Bible nous demande, mais en même temps, être généreux en fonction des besoins. Alors, là aussi, il y a une limite, parce que ce que Jésus dit, c'est une question d'équilibre. Paul va dire aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Donc si on a en face une personne paresseuse qui ne travaille pas et qui vient demander, est-ce que ce principe s'applique ? Vous voyez ? Donc le principe de générosité, c'est un principe de partage en fonction d'un besoin, connu ou pas connu, mais c'est toujours contrebalancé. Mais sûrement, enfin, ce que Jésus dit, c'est pas de donner à n'importe qui demande, donner sans sagesse ni discernement. Il faut demander à Dieu qui nous donne la sagesse de savoir quand donner, à qui donner, combien donner, sous quelle forme. Par exemple, à l'église, on avait, où j'étais avant, on avait mis en place pour des nécessités une solidarité alimentaire. C'est-à-dire qu'on avait un placard rempli de provisions, d'accord, qui était soigneusement contrôlé et distribué par des personnes mûrement mandatées. Et en fonction des besoins, les gens leur donnaient de la nourriture. Mais c'est peut-être différent que de distribuer des billets à droite à gauche. Vous donnez peut-être un billet à un alcoolique dans la rue, il va aller s'acheter 2 bouteilles de vin. Donc vous avez été généreux, mais en fait ça a servi à rien. Donc vous voyez, ces 4 exemples nous montrent comment la tradition, finalement, peut nous permettre de s'appliquer à la vie quotidienne. Qu'est-ce que je fais quand je subis un affront ? Qu'est-ce que je fais quand il y a des problèmes de relations sociales ? Qu'est-ce que je fais dans la relation au pouvoir, c'est les impôts, etc. Et puis, qu'est-ce que je fais quand il y a une demande de solidarité ? Voilà. Ne pas résister. Ça, c'est un premier point. Alors, Il y a deux impératifs. Le deuxième, c'est aimer vos ennemis. Alors, je vois que le temps passe, donc on ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Mais aimer vos ennemis, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a des verbes. Ici, on a un verbe, on a plusieurs verbes d'application à l'impératif. C'est bénir, faire du bien et prier. Alors, aimer vos ennemis, c'est ce que Gandhi ne dit pas dans son action. C'est-à-dire que Gandhi, il est d'accord pour ne pas résister aux méchants, mais aimer vos ennemis, il n'en parle pas. Et c'est ça la grande différence, c'est que le standard de Dieu, il est plus élevé qu'un standard humain. Et encore une fois, les pharisiens déduisaient la haine de l'ennemi du mot prochain qu'ils assimilaient à ami. C'est-à-dire que pour les pharisiens, mon prochain, c'est vraiment mon ami. Donc tous ceux qui ne sont pas mon ami, mon prochain, c'est mes ennemis. C'est ça qu'ils en avaient déduit. Et c'est pour ça que dans la parabole du bon samaritain, hein, le docteur de la loi, il demande « Mais qui est mon prochain ?» Ben oui, parce que les pharisiens, ils avaient détourné le mot « prochain ». Le prochain, c'est celui qui a besoin de moi, lui dit Jésus. Et les pharisiens disaient « Mon prochain, c'est mon ami très proche. » Donc si ce n'est pas mon ami très proche, tous les autres étaient mes ennemis. Donc voilà comment les pharisiens, encore une fois, avait détourné la loi. On n'a pas le temps aujourd'hui, il faudrait aller dans les textes de l'Ancien Testament, dans le Lévitique, dans l'Exode, il y a plein de textes qui illustrent ça. Je vous demande juste de me croire sur parole ce que je vous dis, parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher les textes. Je vais essayer de terminer ça. Par exemple, dans Lévitique 19-17, il était dit « Tu ne haïras pas ton frère, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc en fait, les pharisiens disaient « Tu dois haïr ton ennemi, et l'ennemi pouvait être même la personne dans le temple, hein, à côté de moi. Tous ceux qui n'étaient pas amis étaient ennemis. Et en fait, ce que dit la parole, c'est que tu ne haïras pas ton frère. » Voilà. Donc les pharisiens, encore une fois, avaient détourné la parole de Dieu ici. Et pourquoi est-ce que là, on a un deuxième impératif, aimer vos ennemis? Je crois que c'est un point qui est capital. C'est-à-dire que le premier point, les premiers points qui concernent il y a une négation, ne pas résister. Le ne pas résister peut entraîner un ressassement intérieur, peut entraîner un trouble dans les pensées, comme Colin l'a dit la semaine dernière. Donc si je reste passif face à une situation, je risque de m'enfermer, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des racines d'amertume qui commencent à venir. Et s'il y a des racines d'amertume qui viennent, il y a des pensées de vengeance, et je vais ruminer. Et c'est pour ça qu'il faut voir cet enseignement de Jésus comme un élément à double face. Il y a deux impératifs, c'est ne pas résister et aimer en même temps. Et les deux sont indissolubles. Parce que aimer, bénir, prier, ce sont des verbes d'action. C'est-à-dire que si je reste dans le ressassement, la mauvaise pensée et l'amertume, je vais arriver à des pensées de vengeance et je vais mettre en action ma vengeance. Si je remplace cette vengeance par des verbes d'action positifs, qui sont d'aimer, de bénir, de prier, et aimer, ça veut dire aussi aimer en action. Hein, l'apôtre Jean a dit, n'aimez pas en parole, mais en action et en vérité. En parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc si je me mets à aimer, c'est-à-dire faire un truc positif, je me mets en mouvement, et quand je me mets en mouvement, en général, ça calme mes pensées. C'est pour ça que ces verbes sont très importants à comprendre. Aimer, bénir, faire du bien, prier. En rentrant dans l'action, je sors de ma rumination, je sors de ma rancune. Mais aimer ne veut pas dire non plus que j'accepte la haine et le mal, que je suis passif, que je suis lâche. C'est je décide, c'est conscient, c'est contre ma nature, je décide de me mettre en action et de sortir de ma rumination. Je vais vous donner un exemple. Vous allez fermer les yeux maintenant. Fermez tous les yeux. Et je vais vous donner une consigne, qui est la suivante. Ne pensez pas à un éléphant rose. Ne pensez pas à un éléphant rose. Fermez bien les yeux. Ne pensez pas à un éléphant rose. Vous avez pensé à quoi? D'accord. Vous comprenez l'analogie? Si je reste dans ne pas résister, ben je vais toujours ruminer. Par contre, maintenant, si je vous dis pensez à un éléphant bleu et dessinez-le, d'aller faire quoi? Pensez à un éléphant bleu et dessinez-le. Ben vous allez vous mettre en action, vous allez y penser. Donc c'est pour ça que les deux sont indissolubles. Si je décide de rentrer dans l'action, là, c'est beaucoup mieux. Et il y a un problème, c'est comment je fais? Parce que c'est dur. Je vous ai cité tous ces exemples, j'en ai résolu un et il y en a d'autres que je suis en train de résoudre. Et très honnêtement, ce message me fait beaucoup de bien parce que ça me permet de recentrer les idées et en même temps que je vous parle, je me parle à moi. Voilà, et j'aimerais bien que, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez aussi, votre petite action là, dont je vous ai parlé au début, que vous puissiez mettre en pratique. Alors comment faire? Il y a un problème et il y a une solution, parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de... On n'est jamais à l'abandon. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas au point aujourd'hui. Voilà, on a un modèle, et heureusement, on a un modèle qui est notre Père Céleste, c'est le modèle du Père parfait. Alors, soyez donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Alors, si on le prend comme une injonction, on va se dire, mais de toute façon, moi, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais arriver au niveau du Père. Alors, dans Luc, je vous ai dit qu'il y a un texte parallèle dans Luc. Luc nous dit, soyez plein de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. Donc, c'est déjà plus facile. Si on remplace le mot parfait par le mot compassion, on va dire c'est plus atteignable, ou plein de bonté. C'est plus facile d'essayer d'être plein de bonté que d'essayer d'être parfait. En fait, le mot parfait, c'est peut-être pas un bon mot. Le mot est peut-être pas bien traduit, parce que le mot parfait nous parle un peu d'un truc inatteignable, d'un état où on est arrivé, d'un état éternel de Dieu, et du coup c'est peut-être un peu décourageant. En fait, le mot original qui est utilisé, c'est le mot teleios, qui a son équivalent hébreu. Alors, je vais vous parler un peu du texte grec, mais je suis obligé pour bien expliquer cette partie-là. C'est le mot équivalent à shalom en hébreu. Ce mot grec signifie notion de paix, de complétude, d'harmonie. D'accord? C'est le même mot qu'on retrouve quand Jésus meurt à la croix. Il prononce ces trois paroles en français, tout est accompli. En grec, c'est te telestai. Tout est accompli. C'est-à-dire que ce mot parfait qui est utilisé, c'est le mot de complétude, le mot d'harmonie. Donc être parfait selon ce texte, ce n'est pas l'idéal absolu de Dieu, même si Dieu est comme ça, mais c'est placer toute sa vie sous l'autorité de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça en fait. C'est un mot de complétude. C'est le mot qui est utilisé par Jacques dans sa première épître. C'est-à-dire que l'épreuve nous permet d'avancer, de croître, pour être parfait et accompli sans faillir en rien. C'est la notion d'accomplissement. C'est-à-dire que ce mot signifie finalement un processus de croissance spirituelle et non pas un but atteint. Donc quand Jésus dit « soyez parfait », il dit en réalité « mettez-vous en mouvement ». Au vu de tout ce que je vous ai dit, tous les exemples que je vous ai cités, le warning que je vous ai donné sur les pharisiens qui interprétaient mal les Écritures, si vous corrigez votre pensée, si vous corrigez votre tir, et que vous rentrez dans un processus de croissance spirituelle pour atteindre une espèce de paix et de complétude, eh bien c'est là que vous serez sur le modèle du Père. C'est ça que Jésus est en train de dire. Ce mot donc est utilisé sous différentes formes dans le Nouveau Testament, quand dans Hébreux 5, par exemple, il parle de lait et de nourriture solide. Il dit la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont discerné, ont gagné l'aptitude à discerner le bien et du mal. Eh bien les hommes faits, c'est, hommes et femmes bien sûr, c'est les hommes complets, accomplis. C'est la notion de sainteté, d'accomplissement, de poursuite d'un but, d'avancer. C'est ça que Jésus veut dire aussi. Et il nous donne ce modèle du Père. Il dit le Père, ben, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il donne sa nourriture aux justes et aux injustes. La perfection, c'est de dire, ben voilà, je fais quand même, je me mets en action. Certes, il a été méchant avec moi. Certes, il a fait ça, mais je prends la décision de ne pas me venger. Et on a vraiment besoin de prier pour ça. On a besoin de prier pour que Dieu nous délivre de notre égoïsme, qu'il nous délivre de nos mauvaises pensées. Et on a besoin de prier pour que la justice soit rendue. Dieu ne nous assure pas que la justice sera rendue ici-bas, mais on peut compter sur lui pour qu'un jour justice soit rendue. Et c'est ce que Paul dit aux Romains. Il leur dit « Ne vous vengez pas, mes amis, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu vas amasser sur sa tête. » On a vraiment besoin de demander à Dieu qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous remplisse de cette volonté de sortir de nos ressassements, de nos rancunes, pour vraiment rentrer dans des actions positives. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Je peux prier pour cette personne, ça c'est immédiat. Je peux lui faire du bien. Quelle action je peux lui faire? Je peux lui passer un coup de téléphone, lui dire une parole à propos. Je peux faire finalement comme Jésus a fait. Quand il a lavé les pieds de Judas, il n'a pas commencé à dire « Ouais, mais attends, Judas, il va me trahir, puis il a déjà piqué de l'argent, puis il m'a vendu. » Il a lavé les pieds de Judas, basta, parce qu'il a pris cette décision. Et si Jésus a pu la prendre, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc il peut comprendre ce genre de choses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un processus de croissance spirituelle continue. Il y a plein de choses que j'aurais voulu vous dire d'autres. J'aimerais juste vous donner quand même, pour terminer, un témoignage. C'est un témoignage puissant, c'est le témoignage de quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Corrie ten Boom. Vous connaissez Corrie ten Boom? C'est une néerlandaise qui a hébergé des juifs. Elle est allée en camp de concentration, elle a passé du temps, elle a vu sa sœur mourir. Et donc Corrie ten Boom, elle raconte dans son livre, La Cachette, c'est un livre paru en 1971, qu'un jour elle était dans une église de Munich et elle venait apporter son témoignage d'ancienne déportée. Et un jour elle reconnaît dans la foule un ancien garde nazi du camp de Ravensbrück où elle avait été incarcérée et où sa sœur Betsy était morte. Alors voilà ce qu'elle écrit dans son livre. Il s'est avancé vers moi tandis que l'église se vidait. Et l'autre avance et dit « Un grand merci pour votre message, mademoiselle. » Et Corrie ten Boom de penser « Dire qu'il m'a tendu la main. » Et cet homme continue et dire qu'il m'a lavé de mes péchés, comme vous l'avez si bien dit. Il tend la main à Corrie ten Boom et elle qui avait prêché si souvent la nécessité du pardon. Voilà ce qu'elle dit. Je gardais fermement ma main le long de mon corps. Je reconnaissais que la colère et le désir de vengeance qui tournaient dans mon esprit étaient des péchés. Voilà, le ressassement intérieur. Vous avez appris, d'accord ? Je priais, « Seigneur Jésus, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. » J'essayais de sourire, je voulais serrer sa main, mais je ne le pouvais pas. Je ne ressentais rien pour lui, pas la moindre chaleur ou compassion. Je priais à nouveau en silence, « Jésus, je suis incapable de lui pardonner. Toi, accorde-lui ton pardon. » Je lui pris finalement la main et soudain, quelque chose d'extraordinaire arriva. Parti de mon épaule, un courant électrique sembla traverser mon bras, ma main est entrée en lui, tandis que mon cœur s'emplissait d'un sentiment d'amour envers cet étranger qui me bouleversait. Ainsi venais-je de découvrir que la guérison du monde ne dépend pas de notre pardon, ni de notre compassion, mais de la faculté de Jésus à pardonner et à aimer. Quand il nous demande d'aimer nos ennemis, en plus de sa requête, il nous accorde la force d'aimer. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et on va conclure. Le message clé que je voudrais... J'ai essayé de faire la synthèse de ce message parce que c'était vraiment compliqué. Voilà le message clé que je vous propose. Non à la vengeance, mais prendre modèle sur le standard parfait du Père en demandant de l'aide au Seigneur pour pardonner, aimer et prier pour ceux qui nous font du mal. Alors je reviens à ma question du départ. Souvenez-vous, une personne, vous avez pensé à une personne à qui vous avez besoin... au sujet de laquelle vous avez besoin de faire quelque chose, de la même que moi, je vous ai cité plein d'exemples, et je suis en chemin. Il y a déjà une personne avec qui je me suis réconcilié, je lui ai téléphoné, je lui ai dit ce que je pensais, et voilà, mais sans amertume, sans colère, et il a été très touché et très compréhensif. Je suis sûr que vous avez des cas aussi, et je vous invite donc à utiliser cette capacité de cette puissance du pardon cet amour surnaturel de Dieu qui peut toucher votre cœur, vous aider à pardonner, et Dieu pourra ainsi vous guérir et guérir votre famille. Voilà, merci.